enseignants à vos divertis, vos heures scolaires, maîtres conférenciers avec vous, assistants, chroniqueurs, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, messieurs, monsieur le chroniqueur de l'école des sciences et du conseil de l'école. Nous étions ici à la même chose, au moment de la conception des conseils de l'école. Dans cette première participation de la partition de cette école qui va livrer sur le marché maintenant cette toute première disponible. Monsieur le ministre d'État qui m'a chargé de regarder ici ce matin, m'a recommandé deux fois l'attitude essentielle. La première, c'est d'abord les remerciements aux figures marquantes de la scène du jour. Je vais vous m'attarder sur la trilogie qui gouverne cette école supérieure. C'est la foi, m'a-t-on dit, la rationalité et l'innovation. Mais je vais m'attarder l'accent sur la rationalité. Pour ça, quand ma maman vous est venue, si vous restez chez vous, reconnue comme telle. Bon, je ne vais pas contester ou corréler le substantif rationalité. Alors, dans ma posture de diplôme en sciences sociales, je pense ici, dans l'espace où on se trouve, quand on parle de rationalité, en fait, c'est la rationalité occidentale. C'est ça qu'on peut parler encore, la rationalité technico-scientifique. Mais la rationalité, vue sous l'angle des sciences sociales, a une autre perception. Et c'est à ce titre que je suis bien aise de m'aligner sur la posture de François Bingo et évidemment le professeur Jean Joy qui est enseignant dans l'anthropologie pour comprendre la réalité dans l'épistémologie néo-africaine. Le noir va vers les cieux, va vers les dieux, à travers ses divinités, à travers ses ancêtres, à travers ses croyances, parce que les sciences sociales enseignent les croyances. Le ministre d'État m'a chargé de remercier ici toute l'œuvre de M. Joseph Charles Doumba, qui pour la première fois est reconnu en académie. Et à ce titre, il félicite M. le recteur pour avoir pris cette initiative avec le conseil directoral, le conseil électoral notamment, de remercier cet homme qui, la seule figure, le seul visage de M. Doumba renvoie à l'ADN de l'ADPC. Il portait l'ADPC dans l'âme et le réflexe. Il en était pratiquement l'intégration, le chef de l'État étant l'incarnation. Monsieur Joseph Charles Doumba a marqué de nombreuses générations ici au comité central par un esprit moins incarné parce qu'en fait, il s'attardait plus sur l'esprit, non sur la matière. Et on peut comprendre aussi à travers, parce que Fabien aussi nous a dit à la réalité au RDC, à l'époque Doumba, c'est le dénouement pour libérer. La matière a un peu suivi, la plutocratie qu'on observe de plus en plus, mais l'ère Doumba, c'était l'ère des esprits du RDPC, des innovateurs du RDPC, mais surtout ceux qui alimentaient, enrichissaient notamment, donnaient un ton et une saveur au RDPC originel, celui de la foi et de l'engagement, davantage celui de la rigueur et de la moralisation pour entrer notamment aux premières heures du RDPC, que M. Christophe Nemzo, ici présent, peut en dire davantage. M. le ministre d'État, je vous remercie également. M. Nemzo, qui s'avère ici comme notamment un soutien actif à l'Université camerounaise aujourd'hui, en ouvrant un espace pour le palais des congrès, jusque-là réservé aux solennités et protocolaires, aux fastes, mais de plus en plus, il s'est aligné dans la figure de celui notamment dans le prolongement de Robert Sorbonne, des fondateurs de la Sorbonne en France, notamment, pensait qu'en fait, si on veut créer l'univers, il faut d'abord s'intéresser à l'université, et l'univers pourra avoir un sens, et pouvoir faire sens. Et produit des effluves de sens. Monsieur le ministre d'État m'a également demandé de ne pas perdre de vue l'action de Monsieur Meuzon Moduda, qui fut un de ses fidèles collaborateurs au niveau du ministère de la Communication pendant la période 2000 et 2004, quand il y exerçait son magistère. Monsieur Meuzon Moduda était l'architecte notamment de l'arrimage de la CIA satellite. Dans les années 2000, on a fait notamment le sommet France-Afrique en 1996, mais bien plus le sommet France-Afrique. Du 8 au 10 janvier 2001, il fut notamment l'architecte en tant que directeur technique à cette époque, notamment, de voir comment est-ce qu'on pouvait rendre sur l'espace planétaire, diffuser et montrer les richesses du Cameroun, les atouts du Cameroun. À ce titre, il m'a chargé de remercier M. Nemzo pour cela, et en prolongeant sur le sillage de l'UNESCO, où en décembre 2001, le 21 décembre 2001, il fut également notamment le grand timonier de la mise en place de 22 000 radios communautaires pour alimenter la plupart de nos radios dans le message communautaire, le message local, le message dont parlait tout à l'heure M. le Dr. François Rio, l'endogénéisation, permet que les cultures puissent entrer dans la radio et faire passer le message. Il m'a ensuite été demandé également de dire à M. le professeur Kouna Mama toute son admiration, notamment l'humilité de renaissance pour porter dans un projet avant-gardiste comme celui de l'Estat, lui qui est déjà un grand maître chevronné, reconnu par ses pairs à travers les cinq planètes. Il a pris l'initiative maintenant de rentrer aux sources, comme dit le professeur Segor. Nous sommes comme des lampes qui partent voir à la source. Donc, M. le professeur Kouna Mama, M. le ministre d'État, vous remercie pour votre humilité, l'initiative, l'abnégation. Vous mettre au travail, vous donnez maintenant votre expertise pour faire germer sur les terres de Colonia une institution qui est appelée à écrire son histoire dans les lettres de l'Université camerounaise. Et à ce titre, il m'a également demandé d'insister sur un aspect qui semble fondamental, c'est celui du coût de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Parce qu'à l'Estat, on n'a pas une centaine d'élèves ou encore des milliers, comme ça se voit ailleurs, parce que bon, les études coûtent relativement cher. Mais ce n'est pas ça qui fait le souci aujourd'hui, c'est davantage qu'est-ce que nous recherchons dans notre espace aujourd'hui. Allez regarder de près en remontant le cours de l'histoire avec John Harvard en 1634, quand il créait la Harvard aux États-Unis, beaucoup de gens avaient été sceptiques. On avait trouvé un peu trop élitiste et sinon aristocratique, on a dit non. L'enseignement coûte cher. Si vous voulez qu'on développe notre pays, les États-Unis, et être les leaders du monde, il faut compter sur l'enseignement. Et puis, j'ai tout dit ici. En fait, si vous pensez que l'enseignement coûte cher, alors que c'est l'ignorance, la phrase que les autres avaient. Et qu'on se rend compte, 4 siècles après, que dans le classement des universités du monde aujourd'hui, c'est la première université au monde, avant Stanford et MIT. Quand on parle de Harvard, ça renvoie aux États-Unis, ça renvoie au classement des meilleurs, des plus brillants et des meilleurs, comme ça se faisait à la télévision aux États-Unis dans les années 63. C'est-il, monsieur le docteur? L'Estat ne coûte pas cher, il reste maintenant à l'Estat de faire la promotion, de vendre l'Estat sur l'espace camerounais, l'espace SEMA et l'espace Afrique centrale et bien au-delà. Parce que les gens peuvent être au Zimbabwe, peuvent être en Australie, c'est à l'Estat, suivez ses coûts et recevoir son parchemin. Donc, c'est plus question aujourd'hui de local ou d'espace, mais c'est une question maintenant de planétarisation à travers l'outil Internet, dont vous êtes aujourd'hui un des sujets les plus qualifiés pour en parler au pluriel. Donc, à ce titre, l'Estat trouve un très bon cadre, notamment de formation des jeunes aujourd'hui, des jeunes licenciés. Et ça arrive au moment où l'université vient de mettre, vient d'obtenir du chef de l'État, à travers le législateur, la loi du 25 janvier 2023. Qu'est-ce que cette loi apporte comme élément nouveau? Deux piliers essentiels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'université est un peu relativement essoufflée par la précarité des moyens financiers et bien plus la rareté des décaissements des fonds au ministère des Finances. Et à ce titre, les droits universitaires ou encore quelques subventions qu'on peut avoir, l'État n'a pas de subventions, quelques subventions ne suffisent plus, il faut chercher des fonds sur d'autres paradis. Et il y en a des niches où on peut trouver de l'argent pour pouvoir promouvoir davantage de l'espace. Et à ce titre, l'espace aujourd'hui offre un cadre à tous les partenaires au développement, comme on l'a dit à l'heure, avec l'intervention de nos professeurs depuis le Canada, notamment la jeune dame qui a nous rendre à l'évidence, en fait, tous les acteurs de l'espace social doivent porter des efforts pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'université entrepreneuriale. C'est-à-dire celle qui peut maintenant créer des entreprises pour pouvoir financer l'enseignement supérieur. Par contre, vu que dans une vingtaine d'années, l'État ne pourra plus apporter l'université camerounaise. Avec 11 universités d'État, 6 universités sous-régionales, 476 instituts de l'enseignement supérieur. Et évidemment, les deux institutions qui se trouvent dans cet espace universitaire en plus aujourd'hui, avec près de 1200 filières professionnelles conformes dans les espaces universitaires aujourd'hui. L'Université camerounaise compte 440 000 étudiants à ce jour, mais ça semble relativement faible quand on jette un regard de l'autre côté de l'Orient, de l'autre côté de l'Occident, pour se rendre compte aujourd'hui. L'université, c'est l'âme d'un État qui veut se développer à travers la science, à travers l'élément matriciel qui est la culture boursière. Toutes nos inventions doivent s'originer sur cette science-là, parce que le ministre d'État appelle le génie africain. Et comme il le dit si bien, le génie africain est le beau. Mon propos ce matin, c'est davantage d'arriver à être axé sur celui-là, autant que je ne perds pas de vue que les jeunes diplômés de ce matin sont invités, eux également, dans le statut d'étudiant entrepreneur, être les créateurs d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique et bien les organisations publiques ne peuvent plus recruter l'immensité de 72 000 diplômés que se créent les instituts d'enseignement supérieur dans notre pays. Donc, chers licenciés en licenciés professionnels en informatique, en réseau et télécommunication, en énergie et environnement, et en informatique et arts numériques, il n'est plus question aujourd'hui dans l'enseignement supérieur d'attendre forcément d'emploi. Il faut déjà se mettre dans la culture créateur d'emploi en mutualisant les connaissances, en se mettant dans un environnement où l'écosystème est favorable. On crée maintenant une entreprise en 3 jours, moyennant 41 000 francs CFA au niveau du ministère des PME. On peut déjà créer une entreprise et on se met au travail. Et ce n'est pas aussi difficile que ça, le temps soit fait avec l'espace numérique. Vous qui êtes des spécialistes de l'espace numérique aujourd'hui, vous savez bien que sur l'espace e-commerce, l'espace e-sciences, e-finances et autres, on peut notamment y découvrir et obtenir des emplois. Une jeune étudiante de l'Institut, d'un institut de la classe, qui a fait la promotion, vient de décrocher un emploi à Ethiopian Airlines, qui a lancé notamment l'appel d'offres de 20 hôtesses de l'air minimum baccalauréat et dans un âge oscillant entre 18 ans et 23 ans. Elle, elle en a 20 exactement, et était déjà mère de 3 enfants et se préparant à rentrer au village. Et elle a capté la demande de l'offre d'emploi présentée par Ethiopian Airlines. Elle a notamment sorti, elle a passé les auditions. Les tests sont sortis à 48 heures quand elle commençait ton temps. J'ai été recruté à Ethiopian. Je ne vais plus être payé en France, pas, mais en dollars américains. Le professeur Kuna Mama, qui est l'économiste, en fait, c'est mieux pour moi qu'en réalité. Quand on parle d'une zone où la monnaie est faible, France, pas, vers une zone où la monnaie est forte, on appelle ça le dermaillage. Les termes de l'échange, il y avait une zone où la monnaie est très forte. Cette jeune dame va gagner à partir de janvier 2025 un salaire de 1 400 000 francs CFA par mois. Sur les espaces, on peut y gagner des emplois, on peut en créer et on peut avoir des soutiens, des appuis dans ce champ. Bon, donc c'est à peu près ça que M. Mitterrand m'a chargé de dire. En rappelant qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire confiance au continent africain parce qu'on constate de plus en plus des sorties. Au Canada, l'éducation canadienne et autres. Mais on perd le jeu, on a dit le chef de l'environnement. En fait, pendant que nous allons là-bas, eux également, ils viennent ici chercher nos richesses pour pouvoir se déployer sur la scène et être maintenant des pays immenses. J'étais très aise d'écouter le docteur François Léon, qui m'a dit qu'on parlait depuis maintenant une vingtaine d'années sur ces nouveaux, notamment ces nouveaux paradigmes. Et on se rend à l'évidence qu'en fait, des pays comme la Corée du Sud avaient la même taille économique que le Cameroun. Ces pays ont connu notamment une grande avancée, une avancée significative, une avancée qualitative et qualifiante. Aujourd'hui, quand on est à Séoul, le salaire le plus bas de SMIC est de 1 million de francs CFA par mois. C'est des salaires à 7 chiffres chez les dragons et les tigres d'Asie. Bon, on ne va pas forcément faire une comparaison immédiate avec le Cameroun, parce qu'en fait, ça y est, on va aller près. Deux fois deux ne font pas. C'est si on compare sur la place de 10, monsieur le professeur. Si on est sur la place de 6, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud a au moins bénéficié, comme on dit, pas forcément d'un plan Marshall, mais la Corée du Sud a bénéficié de l'appui des États-Unis, on ne le dit pas assez, du Japon et de l'Allemagne qui a installé des usines de fabrication de montage de voitures. On n'en a pas encore parlé. Donc si on a plus tendance à comparer pour la Corée du Sud, selon, est-ce que nous serons également comme la Corée en réalité, il faut prendre un recul et voir les initiatives qui s'imposent en la matière. 60 ans après les indépendances, la présence militaire de France CFA, les ressources du continent et de la forte demande en souffle de souveraineté, tout cela continue aujourd'hui notamment l'appui sur lequel, le levier sur lequel la France reste notamment poussée pour s'imposer à travers le monde. Et la puissance française, comme le sait, repose sur 3 piliers essentiels. La place de membre permanent au Conseil de sécurité, la puissance militaire, la position privilégiée dans plusieurs pays africains. Bien évidemment, avec l'Asie d'État aujourd'hui, il y a un espoir. C'est un gigantesque marché. On était à Brazzaville il y a quelques jours. Monsieur le professeur Michel Cyr, Jenna Wengu, nous rappelait que sur 3500 milliards de francs CFA, l'Asie d'État offrait 2800 milliards pour rapprocher 4 États. On parle de Yaoundé et de Douala aujourd'hui pour Brazzaville, pour libérer par route. Et ça coûte en moyenne 70 000 francs quand le billet d'avion coûte 700 000 francs. C'est-à-dire plus de 1 000 euros à peu près. Et en ce qui concerne cet espace, cette gigantesque plateforme permet donc aux différents États de voir comment mutualiser les efforts et les compétences pour pouvoir se prolonger sur la scène. On est un peu très au regret de constater que la plupart de nos États, nos pays
les représentants sont actuellement en Chine pour faire des partenariats. Mais fussent-ils un peu assez ingénieux, l'Union africaine pourrait jouer le rôle de regroupement d'abord de cette force pour aller en rang serré et non en rang épars et non disparate ou dispersé comme vous le dites très bien. En rang épars et non disparate, mais en rang serré, on aurait pu avoir un regard un peu plus puissant et un peu plus prégnant sur ce regard où les coopérations vont se mettre en place depuis 48 de la paix. Les images à travers le monde semblent relativement réalisantes parce qu'en réalité, on va vendre l'Afrique, on va offrir l'Afrique, mais en retour, est-ce que la Chine gagne? Au Congo-Brazzaville, on vient de créer à la Chine 21 000 hectares de terre pour pouvoir exploiter. On a un très mauvais exemple avec l'Ouganda qui a fait des prêts, qui a obtenu des prêts de la Chine. Et au moment de rembourser ces prêts, ça a été très difficile avec des taux d'intérêt très élevés pour ça. Et où Pékin a imposé à l'aéroport d'Entebbe de ne plus recevoir un avion jusqu'à ce que les prêts de paix soient entièrement payés. Une guerre s'est déclenchée entre la Chine et puis l'Ouganda parce qu'il fallait rembourser notamment cet argent, ces prêts qu'on nous fait, ça a été très violent. Bon, je ne dis pas de ma posture de théoricien de l'école des humanités classiques africaines dont parlait tout à l'heure de M. François Mbonimpa. Bah, la réalité, l'Afrique doit davantage se réveiller. On va vers l'Asie, on va vers l'Europe, on va vers l'Amérique, d'accord, c'est bien, mais en revanche, nous avons tout ce pouvoir ici, ce pouvoir scientifique, ce pouvoir technologique, ce pouvoir économique au plan local. On doit simplement mettre en confiance le génie et le talent du chercheur africain pour pouvoir se mettre sur la plateforme mondiale. Aujourd'hui, on parle d'Orange Monde, mais en fait, Orange Monde, c'est quoi? C'est le savoir d'un jeune étudiant de Polytechnique à Yaoundé. Orange Monde a fait un appel d'eau pour dire que nous voulons avoir la monnaie numérique. Un jeune étudiant de la filière des télécoms a monté le projet qu'il a vendu à 1 million c'était Orange. Orange a acheté maintenant pour faire de grandes affaires. Quand on parle d'Orange, on en fait, c'est une invention parolaise. On est allé chercher ça ailleurs. Je puis m'inscrire dans la posture diopienne, chef en tête Diop, Diophile Benga, Grégoire Diogo, d'autres grands maîtres, comme notamment Nusser Canada, vous me trouvez, ou encore François Mivre Diwono ici, Japan Lego, Césaire Ego. Pourquoi on se rend à l'évidence dans la réalité? Le premier savoir au monde est un savoir africain. On ne va pas raconter le cours de l'histoire pour savoir que le premier habitant de la Terre était noir, il n'était pas blanc, il n'était pas jaune. Parce que pendant 400 000 ans d'histoire, il n'y avait que des noirs sur la Terre. J'ai été très content de voir pendant l'ouverture des Jeux Olympiques, tout ce qui m'a plu, c'est qu'on a pu laisser voir qu'en fait, on avait des athlètes russes noirs, des athlètes suédois noirs. Or, pendant longtemps, le noir avait été caché dans ces espaces-là. Les premiers habitants sur la Terre furent des noirs. Le blanc est arrivé à peine 5 à 6 000 ans d'histoire et le jaune est à 1 000 ans d'histoire. Il ne peut pas être une histoire devant nous. La première constitution au monde, c'est la charte de Pauvre-Panfou en 1836. On parle de la constitution américaine de 1776. C'est faux. La première constitution au monde est malienne. Pourtant, l'homme le plus riche au monde, Massa Moussa, c'est lui le premier à découvrir l'Amérique, les noms Christophe Colomb. Donc, cette fausseté de l'histoire que nous sommes en train de veiller à travers les éducations qui s'annoncent, permettront que les jeunes aujourd'hui se rend compte qu'en réalité, c'est lui qui est la science et la technique de développement aujourd'hui. Qu'est-ce que la Grèce dit? La Grèce n'existait pas. La Grèce n'existait pas. La Grèce n'a pas existé. Tout remonte à l'Égypte midienne. Tout est à l'Égypte midienne. Quand on parle des théorèmes de Thalès, d'Archimède, de Pythagore et autres, ces Africains, ce n'est pas. Ils sont simplement allés prendre et aller développer chez eux. Ils ont modifié, ils sont venus nous présenter cela ici. Et on peut les comprendre très bien. Quand on va on a dit les fables, c'est la fontaine qui est le créateur des fables. Or, c'est faux. C'est faux. C'est les hommes qui tirent sur les rives du Nil, eux qui émergent des fables. Ou encore Emmanuel Kant, on dit les Maximes, c'est Kant. On a publié des ouvrages sur les Maximes de Kant, mais c'est faux. Kant n'est pas le patron des Maximes, c'est Taoutek. À l'Égypte ancienne, c'est Taoutek. Mais quand ils sont allés prendre, ils ont développé et nous ont présenté cela. Et je n'ai plus le droit sans perdre quelques sensibilités ecclésiologiques pour dire que la Bible était là 500 ans avant Jésus-Christ. Il a trouvé la Bible. La Bible n'émerge pas avec le Christ, non. Le roi Constantin envoie des experts en Égypte nubienne, c'est-à-dire sur les rives du Nil, on parle d'Égypte, c'est les rives du Nil, c'est en Afrique. Il envoie des experts dans des hiéroglyphes et des papyrus qu'il transforme, c'est tout. Ça existait déjà et le nom c'était Horus, qu'on a transformé en Jésus et Horus était noir. Et notre Jésus, comme nous présente, est de la parole, exige que nul ne va au Père que par moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est des noirs qu'il s'agit et non des blancs. Donc, ça, le défi d'aujourd'hui. Quand ces jeunes diplômés aujourd'hui sont appelés plus que jamais à transformer la science et à rendre la science, notamment d'abord dans son antériorité, dans son ontologie, et ça va qu'en fait, cette science, elle est d'abord africaine. On va le voir remonter le cours de la vie. De Boumaï ou encore de Lucie, sur les rives du Tchad et puis d'Éthiopie, les premiers hommes sont apparus. Et les travaux faits présentés par Yves Provence restent encore d'une actualité très forte et inattaquable sur le plan scientifique. Parce qu'en fait, Yves Provence a démontré qu'en fait, l'ancêtre de l'Angleterre était noir et l'ancêtre de l'humanité était également noir. Donc c'est le noir qui est le dépositaire du savoir universel. Et c'est ce qu'il peut dire. C'est ce qu'on peut dire à Cheikh Anta Diop dans son ouvrage Nation et Culture à la page 166. Il est très clair, sinon péremptoire. Il précise qu'aucune pensée scientifique n'est étrangère à l'Afrique qui fut la terre de leur enfantement. Aucune pensée scientifique, dit-il, n'est étrangère à l'Afrique qui fut la terre de leur enfantement. Et il ajoute, c'est en toute légitimité que les chercheurs africains, ces jeunes diplômés, c'est en toute légitimité qu'ils doivent puiser dans le savoir universel pour en faire œuvre d'utilité et d'efficience, comme citation chez Anta Diop. On n'a aucun complexe devant le blanc, aucun complexe du tout sur le monde. La science est africaine, elle s'origine en Afrique, sur les rives du Nil. Les autres sont venus rapidement prendre ce qu'il y avait, ils ont transformé, ils ont codifié et ils sont revenus nous vendre, tout en sachant qu'à la réalité, au départ, au commencement, c'est nous qui étions à l'origine. C'est la revendication que nous avons aujourd'hui à travers les humanités classiques africaines. Donc, qui est donc le domaine central de Cheikh Anta Diop, ou encore notamment cette nouvelle science africaine qui s'impose à travers son terroir. J'ai publié des articles pour ce genre, je vais dans ce sens-là, publié dans une revue, je crois, à Brazzaville, ou à Brazzaville, je crois très bien. J'ai lu ça à Brazzaville, j'ai avec Grégoire Biyogo et d'autres grands maîtres sur le continent. Donc, chers jeunes diplômés, n'ayez aucun complexe sur la scène internationale. Vos concurrents sont les Chinois, les Indiens, les Vietnamiens et autres, mais la science est d'abord africaine. Les théories sont africaines. Il faut simplement les faire connaître sur l'espace monde afin de les théoriser comme l'ont fait les autres et en être aujourd'hui maître et possesseur de la nature, comme a dit Descartes. Que la science et la technique feront de nous maître et possesseur de la nature. C'est le rôle de l'État d'aujourd'hui qui a appelé donc cet embryon, appelé donc à devenir donc un espace, une institution. J'étais très content d'avoir de voir tous ces réseaux à travers le monde entier. Parce qu'en fait, nous sommes ici moins de 200 personnes. Mais le rayonnement de l'Estade, c'est plus de 10 millions de personnes dans le monde qui suivent cette émission à travers les voies numériques. Je vous remercie déjà pour avoir bien salué. J'ai envie de vous à l'extérieur. Qui sont en train de suivre en ce moment les propos que je tiens ou encore ceux qui ont de notre contenu, le grand maître, le professeur. Donc, chers amis, chers diplômés, le ministre d'État vous félicite, vous encourage pour l'initiative. Vous êtes allés, vous avez rencontré, vous avez vaincu, vous êtes imposé par la science. On vous a venu un parchemin. Alors ce parchemin maintenant doit vous permettre maintenant, c'est donc un viatique qui vous ouvre maintenant les voies vers la création des emplois et non dans une posture d'attentisme et d'attentisme. On n'attend pas un retour ici, non un retour messianique, non, non. On va vers la science avec beaucoup d'agressivité parce qu'être passif, être en retard, on est pour rattraper ce retard à travers l'outil numérique. C'est par là que nous allons rattraper le retard et redevenir les meilleurs et les premiers du monde. C'est ça le défi d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit maintenant avoir des chaînes de montage d'avions, de véhicules, de motos et autres par ici. Pour aller à Brazzaville, par l'avion, c'est 700 000, mais par la route, c'est 70 000 francs. Vous voyez? Alors, si on avait beaucoup de véhicules ici, par exemple, les gens pouvaient très facilement. On a pris les produits de nos records RFE, n'a pas pu être très avancé. On faisait l'étude des normes économiques d'environnement, c'est rendu compte qu'en fait, le bassin du Congo, qui est un des bassins les plus riches au monde en termes de ressources, le bassin du Congo, s'il est exploité sur 10 ans, génère pour tout le continent 280 000 milliards de francs CFA, le seul bassin du Congo. Et on rembourse toute la dette du continent. La nôtre est d'environ 6 500 milliards de francs CFA, la dette du Cameroun. D'abord, le budget du Cameroun, la dette est à 13 600 milliards de francs CFA. Et sur la norme CEMAC, on est à 45% par rapport à 75% qui est le plafond. On peut encore s'endetter et faire beaucoup de choses. Et c'est en cela que votre intelligence, votre matière prise, votre ADN des TIC aujourd'hui, la base de cette école qui vous a formé, ça doit vous permettre plus que jamais aujourd'hui d'être les meilleurs du monde.
par la création de ces emplois. Avec 41 000 francs CFA, au niveau du ministère des PME, vous êtes déjà crédible sur le marché pour pouvoir réaliser de bonnes choses, de belles perspectives pour l'avenir. C'est ça le message que M. Ndou Beta m'a chargé de porter à votre connaissance. À savoir qu'après la vie de l'école, de l'État, c'est le tour maintenant pour l'école de la vie qui vont être faites maintenant vos connaissances, vos intelligences. Mais n'allez pas chercher ailleurs à imiter Pascal, Blaise Pascal. Non, les savoirs savants d'Afrique sont déjà là. M. Ndou nous a ouvert notamment une piste, à savoir qu'il y a un footballeur français qui a une fracture. Il est revenu en Afrique, on a pu le soigner. Nous sommes en train de codifier les théories africaines. Les Yandala, les Yandala au Cameroun soignent notamment les fractures. La tribu Yanda soigne les fractures en moins de 3 semaines. Et vous repartez discuter le championnat européen, la Champions League, le Bayern Saint-Denis, 2 milliards d'observateurs par mois. Donc, tous les trésors sont en Afrique. Les items culturels sont chez nous, à savoir nos langues, nos cultures, nos chants de fables, nos pommes, nos jurons, nos parémis, nos danses, nos restaurations. On a la meilleure restauration de la zone d'Afrique centrale, vous ne savez pas ça? La meilleure restauration de l'Afrique centrale, le Nolet, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, beaucoup sont déjà prodigés au plan international, par exemple le miel de Pou ou encore le poivre de Benja. Le Nolet vient d'avoir notamment cette classification internationale. Nous avons les meilleurs espaces. Et également, la longévité est garantie chez nous. On a une population jeune d'à peine 65 millions d'habitants. En 2035, le Cameroun aura 60 millions d'habitants. Le continent africain sera à 2,5 milliards d'habitants. Et à côté de nous, ce sera l'Inde avec 2 milliards d'habitants, la Chine 1,8. L'Europe sera 548 millions d'habitants. Donc nous sommes un réservoir de connaissances et un potentiel économique pour acheter, de la richesse. On est se rend très aise aujourd'hui. Le cacao peut déjà coûter 6 000 francs, ça devient maintenant un trésor ancestral, un trésor agricole, un trésor patrimonial. Donc c'est ça le grand message. Je suis très content que le procureur du monde soit venu. C'est bien d'avoir l'invité. Lui qui a fait des voyages astro, j'en connais deux. Il sait ce qui se passe de l'autre. Si vous avez un mot, vous ne devez plus être pauvre. Vous ne devez plus être pauvre. Si vous avez le professeur Kuna, qui s'est théorisé avec Schumpeter, que la meilleure maîtrise des espaces scientifiques, c'est de codifier ce savoir et pouvoir le vendre sur l'espace marchand et s'imposer sur le monde des étudiants, nous avons le droit d'être fiers aujourd'hui. Et le professeur Jean Zéa, de former le jeune docteur à l'anthropologie, c'est bien le Bochpar, lui qui notamment est très apprécié par le ministre d'État, à travers notamment certaines prestations scientifiques pour lesquelles il a gardé un très bon souvenir. Je vais terminer par quelques chiffres, chers amis, suivez un peu. Vous le savez certainement, parce que l'Afrique, en fait, c'est le réservoir. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, le ministère de l'enseignement supérieur a pu faire des économies de 500 milliards de francs CFA. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez le plus développeur logiciel qui accompagne l'intelligence humaine, c'est un peu plus rapide et ça va un peu plus vite. Vous voyez? Bon, c'est vraiment un petit souci avec les étagères, mais bon. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui accompagne ce processus de développement du continent africain. Et soyons-nous très aises, je pense que soyons-nous très à l'aise avec notamment cette évolution dont nous sommes nous-mêmes d'abord des maîtres. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous ne saviez pas cela. C'est-à-dire qu'en fait, le continent africain aiguise beaucoup d'appétit de part au monde. Tout le monde venait en Afrique. Ailleurs, ça se sèche déjà, en Afrique, ça peut commencer. Vous avez le désert du Sahara. Quand on est Yaoundé pour Paris, on a 6 heures de vol. Le désert prend à peu près 4 heures de vol. Parce qu'on fait en moyenne 1 heure de vol, 6 heures de vol. Le désert du Sahara prend à peu près 4 heures de vol. Vous ne savez pas qu'en fait, avec les panneaux solaires, on peut verdir le désert du Sahara. Avec les panneaux solaires, au niveau du désert du Sahara, on peut fertiliser le Sahara par l'électricité. Vous voyez, au point aujourd'hui, la destinée du Sahara, c'est l'équivalent de la Chine, d'abord en superficie. Et maintenant, au plan du développement, on va aller un peu plus loin. Pour l'avenir, c'est sur le continent africain. Et maintenant, le type de défi qui nous vient, c'est un défi mineur. La province du Bounan, par exemple, a 100 millions d'habitants. Ils ont 3985 universités technologiques, comme les stars, qui est une université technologique. Et ils en ont 3985, c'est une seule province, arrêtée par 2 millions de savants. L'université d'Amiens compte à peine 7000 enseignants. Ça fait 7000 enseignants. Les professeurs comme le professeur Jean Duya ne sont pas 300. Ils sont très peu. Donc on a besoin de savants. on a besoin de la matière, ce qui peut créer des savoirs, ce qui peut notamment les codifier et les vendre sur la scène internationale. Pour qu'on se rende compte aujourd'hui, ce continent est un continent d'avenir. Les experts nous font savoir clairement qu'en 2050, quand l'Afrique aura à peu près 2,5 milliards d'habitants, les autres auront nettement moins, et un citoyen sur quatre sera africain en 2050. En 2100, un citoyen sur trois sera africain. En 2150, un citoyen sur deux sera africain. Et en 2200, il n'y aura que des africains sur la terre. Je reviens du seul réseau que j'étais après avec plusieurs experts du corps. On a échangé dessus. Les autres ne font plus d'enfants. Nous, on en fait. On en procrée tous les jours. Nous sommes à peu près à 30 millions. En 2050, le Cameroun aura 60 millions d'habitants. On a un réservoir économique. Alors, quand on a de la marchandise pour vendre, à qui est-ce qu'on vend? C'est au marché. Et la démographie devient un espace important. C'est un grand marché, un gigantesque marché sur le compteur du gouvernement du gouvernement. Donc, l'avenir, c'est entre vous, mes chers amis. Comme il m'avait dit, monsieur le ministre d'État, 65% de la population camerounaise, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Et maintenant, je suis très content qu'en fait nos aînés, sans politiser mon propos, quand on se rend compte qu'en fait, bah, on se rend compte que la longévité, bah, l'espérance de vie au Cameroun, ce n'est pas 65 à 8 ans. Regardez un peu sur la scène les gens qui nous dirigent, les âges qui nous sont. Les âges qui nous sont. Donc, chers, on ne va pas mourir si pour ça que je vais aller. Quelqu'un qui a 60 ans a un bon 30 ans de vie, au moins 30 ans de vie. Donc, aux États-Unis, on crée des entreprises à 80 ans. Alors, si on veut aller à la retraite pour aller mourir, non, on va continuer. Ceux qui ont 50 ans, ça vise encore 40 ans de vie. Alors, maintenant, la seule politique, c'est que nous dirigeons. Donc, merci beaucoup, chers amis. Donc, c'est pour votre monsieur le ministre d'État. Qui est notamment l'université qui accompagne, parce qu'en fait les universités sont multipliées par les universités d'État au plan académique. Donc merci l'université de votre professeur Madouard au Bois, pour être notre professeur qui a fait son directeur il y a quelques temps. Donc, vie polytechnique, le professeur Sylvain Mouangré, qui est le directeur de polytechnique, accompagne vraiment ce processus. Nous sommes au cœur d'une université technologique qui projette l'avenir. Dieu le faisant, il y a lui-même, qui est l'inspirateur de la politique de l'éducation dans notre pays, le ministre d'État lui-même, qui m'a demandé de venir ici et de tenir ce cours pour la durée de compte tout à l'heure. Donc, je dois faire les remerciements du professeur Pina Maman, monsieur le ministre, dans quelques heures, je vais vous remercier encore. Donc, on vous remercie, monsieur Maison. Vous avez osé, vous êtes audacieux, vous êtes courageux, le ministre d'État.